Chapitre 8. Le nettoyage du comté. Il faisait déjà nuit quand, fatigués et détrempés, les voyageurs arrivèrent enfin au Brandivin et trouvèrent le chemin barré. À chaque extrémité du pont se dressait une palissade garnie de pointes, et ils voyaient que de nouvelles maisons avaient été construites de l'autre côté du fleuve. Des bâtiments à deux étages, aux fenêtres étroites et à angles droits, dénudés et mal éclairés, lugubres au possible et tout à fait étrangers aux sensibilités du comté. Ils frappèrent à la porte extérieure et appelèrent, mais il n'eut d'abord aucune réponse. Puis, à leur grande surprise, il y eut une sonnerie de cor et toutes les lumières s'éteignirent aux fenêtres. Une voix cria dans l'obscurité
« Qui va là? Allez-vous-en! Vous pouvez pas entrer! Vous avez pas lu la pancarte? Accès interdit entre le coucher et le lever du soleil !»«
Évidemment qu'on l'a pas lu, il fait noir comme chez le loup !»
cria Sam en réponse.
« Et si vous croyez que des hobbits du comté méritent d'être laissés dans la flotte par un soir pareil, je vais vous l'arracher votre pancarte, sitôt que je l'aurai trouvée !»
Là-dessus, une fenêtre claqua et un carteron de hobbits se déversa de la maison de gauche, lanterne à la main. Ils ouvrirent la porte sur l'autre rive et quelques-uns d'entre eux traversèrent le pont. Apercevant les voyageurs, ils parurent effrayés.
« Voyons, voyons !» dit Merry, reconnaissant l'un des hobbits. « Si tu ne me reconnais pas, Oblaé, tu devrais. Je suis Merry Brandybook, et j'aimerais savoir ce que tout cela signifie, et ce qu'un bouqueron comme toi fait ici. Tu étais à la porte de la haie aux dernières nouvelles. »
« Ma foi, c'est Maître Merry, je vous mens pas, et tout attifé pour la castagne !»
fit le vieux Hob.
« J'aurions juré que vous étiez mort, perdu dans la vieille forêt, à ce qu'on disait. Content de voir que vous êtes en vie, au bout du compte. »
« Alors cesse de m'examiner à travers les planches et ouvre cette porte !»
répondit Merry.
« Je suis désolé, Maître Merry, mais nous avons nos ordres. »«
Vos ordres de qui ?»«
Le chef qui est à cul-de-sac. »
« Le chef ? Le chef ? Vous voulez dire Monsieur Loto ?» demanda Frodo.
« J'imagine, Monsieur Bessac, mais il faut dire seulement le chef à partir de maintenant. »«
Ah, je vois, » dit Frodo. Au moins, il a laissé tomber le Bessac. Mais de toute évidence, il est grand temps que sa famille s'occupe de lui et le remette à sa place. Un silence tomba parmi les hobbits derrière la clôture.
« C'est malvenu de parler comme ça, » dit l'un d'eux. « Il va finir par l'apprendre, et avec tout ce boucan, vous allez réveiller son gros bras. »«
Nous le réveillerons d'une manière qui risque de le surprendre, » dit Merry. « S'il faut comprendre que votre chef adoré ramasse des bandits dans les terres sauvages pour les prendre à son service, eh bien, nous ne sommes pas revenus trop tôt. »
Il sauta à bas de son poney, puis, avisant la pancarte à la lueur des lanternes, il l'arracha et la jeta par-dessus la clôture. Les hobbits reculèrent sans aucunement chercher à l'ouvrir.
« Viens, Pipin !» dit Merry. « À deux, ça devrait suffire !»
Merry et Pipin escaladèrent la clôture et les hobbits s'enfuirent. Il y eut une autre sonnerie de cor. Sur le plus gros bâtiment à droite, une forme râblée se dessina dans l'embrasure de la porte d'où filtrait un peu de lumière.
« Qu'est-ce que c'est que ce raffut ? »
grogna-t-elle en s'avançant.
« Bris de clôture ! Fichez-moi le camp où je vous tords le cou, sale petits avortons !»
Puis il s'arrêta, car il vit un reflet d'épée.
« Bill Foujard !» dit Merry. « Si tu n'ouvres pas cette porte dans 10 secondes, tu vas le regretter. Je vais te pourfendre si tu n'obéis pas. Et quand tu auras ouvert les portes, tu les passeras pour ne jamais revenir. Tu es un bandit et un voleur de grand chemin !»
Foujard se soumit, traînant les pieds jusqu'à la porte et l'ouvrant.
« Donne-moi la clé !»
dit Merry. Mais le bandit la lui jeta à la tête et prit ses jambes à son cou, fuyant dans l'obscurité. Comme il arrivait à la hauteur des poneys, l'un d'eux décocha une ruade et l'atteignit en pleine course. Il partit dans la nuit avec un jappement et l'on n'entendit plus jamais parler de lui.
« Beau travail, Bill !»
dit Sam à l'intention du poney.
« Voilà pour votre gros bras !» dit Merry. « Nous verrons le chef plus tard. En attendant, il nous faut un logement pour la nuit. » Et puisque vous semblez avoir démoli l'auberge du pont pour construire ces affreux édifices, vous devrez nous héberger.
« Je suis désolé, Monsieur Merry, »
dit Hob,
« mais c'est pas permis. »«
Qu'est-ce qui n'est pas permis ?
Inviter des gens sur le pouce, manger plus qu'on y a droit et tout ça,
répondit Hob.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dit Mary. Est-ce une mauvaise année ou quoi? Je pensais que nous avions eu un bel été et une récolte à l'avenant.
Eh bien non, l'année a été plutôt bonne,
dit Hob.
On fait pousser beaucoup de choses, mais on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. Si vous voulez mon avis, c'est à cause de ceux qui passent pour recueillir et redistribuer, toujours à compter, à mesurer, à mettre à l'entrepôt. Ils recueillent plus qu'ils distribuent et on n'en revoit jamais les trois quarts.
« Oh, pitié !»
dit Pipin bâillant.
« Tout cela est bien trop lassant pour moi ce soir. Nous avons des vivres dans nos bagages. Donnez-nous seulement une chambre où nous allonger. Ce sera mieux que bien des endroits que j'ai visités. »
Les hobbits à la porte ne semblaient pas moins inquiets. De toute évidence, ils enfreignaient une règle ou une autre. Mais il n'était pas question de s'opposer à quatre voyageurs d'une telle autorité, armés des pieds à la tête, dont deux qui paraissaient singulièrement grands et forts. Frodo ordonna de refermer les portes à clé. Il était tout de même sage de monter la garde, tant que des bandits rôdaient dans la contrée. Les quatre compagnons entrèrent alors dans le corps de garde hobbit et s'y mirent aussi à l'aise que possible. L'endroit était nu et d'une grande laideur, pourvu d'un misérable petit âtre qui ne permettait pas de faire un bon feu. Des lits durs, placés en rangée, occupaient les chambres du haut, et chaque mur affichait une pancarte et une liste de règles. Pipin les arracha une à une. Il n'y avait pas de bière, ni guère de nourriture, mais les voyageurs partagèrent leurs provisions et firent tous un assez bon repas. Et Pipin viola la règle 4 en jetant au feu la plus grande part du bois de chauffage alloué au lendemain.
Bon, que diriez-vous d'une pipe pendant que vous nous racontez ce qui se passe dans le comté depuis quelque temps ?
Proposa-t-il.
C'est fini l'herbe à pipe, dit Hob, sauf pour les hommes du chef. Toutes les réserves se sont volatilisées, il semblerait. Des charrettes pleines s'en sont allées par la vieille route qui descend du quartier sud, à ce qu'on entend, du côté du gué de Sarne. Vers la fin de l'année passée, ce devait être après que vous êtes parti. Mais il en partait déjà avant, en cachette, juste un peu. Ce loto,
maintenant tu te tais, Hob la haie,
s'écrièrent plusieurs autres.
« Tu sais bien que c'est pas permis de bavasser. Le chef va en entendre parler et on sera tous dans de beaux draps. »«
Il entendrait rien du tout s'il n'y avait pas tant de mouchards ici, »
répliqua Hob avec virulence.
« c'est bon, » dit Sam. « Ça suffira comme ça. Je ne veux plus entendre un seul mot. Aucun accueil, pas de bière, pas de pipe. Et au lieu de ça, un beau tas de règles et du langage d'orque. J'espérais pouvoir me reposer, mais je vois bien qu'il y a encore du travail et des ennuis à venir. Allons-nous coucher et oublions ça jusqu'à demain matin. »
Le nouveau chef avait visiblement les moyens de se renseigner. Il fallait compter une bonne quarantaine de milles entre le pont et Cul-de-sac, mais quelqu'un se hâta de parcourir le trajet. Frodo et ses amis ne devaient pas tarder à le découvrir. Ils n'avaient aucun projet arrêté. Tout au plus avaient-ils caressé l'idée de descendre tous ensemble à Creux le Creek pour se reposer un peu avant de continuer. Mais devant l'urgence de la situation, ils décidèrent d'aller tout droit à Hobbitville. Ils reprirent donc la route le lendemain, allant d'un trot soutenu. Le vent était tombé, mais le ciel était gris. Les terres paraissaient mornes et plutôt désolées, mais l'on était après tout au premier jour de novembre et à la triste fin de l'automne. Il semblait toutefois y avoir des feux en nombre inhabituel, et de la fumée montait un peu partout alentour. Une grande traînée s'élevait au loin du côté de la pointe au bois. À la tombée du jour, ils approchaient de Grenouillet, un village directement sur la route à environ 22 milles du pont. Ils avaient l'intention d'y passer la nuit. La bûche flottante de Grenouillet était une bonne auberge. Mais, arrivés à la lisière orientale du village, ils rencontrèrent une barrière avec un grand écriteau marqué « Route barrée ». Et derrière celle-ci se tenait une grande troupe de connétables, bâtons à la main et plumes au chapeau, l'air à la fois important et plutôt effrayé.
« Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?»
dit Frodo, le rire au bord des lèvres.
« Je vais vous dire ce que c'est, monsieur Bessac !»
intervint le chef de troupe des connétables, un hobbit à deux plumes. Vous êtes en état d'arrestation pour bris de clôture, arrachage du règlement, voie de fait sur les gardiens, entrée sans permission, occupation illégale des immeubles du comté et corruption des gardes au moyen de nourriture.
« Ce sera tout ?» demanda Frodo.
« Ça suffira pour commencer, » répondit le chef de troupe.
« Je peux en rajouter si vous voulez, » dit Sam. Traiter votre chef de tous les noms, vouloir cogner sa face boutonneuse et trouver que vous autres connétables avez l'air d'une bande de cruches.
Allons, monsieur, ça suffira. C'est le chef qui ordonne que vous veniez tout doux sans faire de bruit. On vous emmène à Bello pour vous remettre aux hommes du chef. Vous aurez votre mot à dire quand il s'occupera de vous. Mais si vous voulez pas rester aux troubliettes plus longtemps qu'il faut, je me la tiendrai bouclée si j'étais vous.
Au grand embarras des connétables, Frodo et ses compagnons s'esclaffèrent d'un seul élan, riant à gorge déployée.
« Ne dites pas de sottises, » répliqua Frodo. « Je vais où je veux et au moment qui me plaît. Il se trouve que je vais à cul-de-sac pour raisons personnelles, mais si vous insistez pour m'accompagner, eh bien, c'est votre affaire. »«
D'accord, monsieur Bessac, » répondit le chef de troupe, écartant la barrière d'une poussée. « Mais oubliez pas que je vous ai arrêté. »
« Je ne l'oublierai pas, » dit Frodo. « Jamais. » Mais je vous le pardonnerai peut-être un jour.
Cela dit, je ne vais pas plus loin pour aujourd'hui. Et si vous aviez la gentillesse de m'escorter jusqu'à la bûche flottante, je vous serais bien obligé.
Ça, je peux pas, monsieur Bessac. L'auberge est fermée. Il y a une maison des connétables à l'autre bout du village. Je vais vous y conduire.
Entendu, dit Frodo. Partez devant et nous vous suivrons.
Sam avait examiné chacun des connétables et avait reconnu l'un d'eux.
« Eh, viens par ici, Robin Petit Terrier, » appela-t-il. « J'ai deux mots à te dire. »
Avec un coup d'œil embarrassé à son chef de troupe, qui parut courroucé mais n'osa pas intervenir, le connétable Petit Terrier ralentit le pas et marcha à côté de Sam, qui descendit de son poney.
« Écoute un peu, Robin, l'ami, » dit Sam. « T'es de Hobbitville et tu devrais avoir plus de bon sens, au lieu de venir apostropher Monsieur Frodo comme ça. » Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'auberge fermée et tout?
Elles le sont toutes, dit Robin. Le chef aime pas trop la boisson. Du moins, c'est comme ça que ça a commencé. Mais maintenant, j'ai idée que ce sont ces hommes qui en profitent. Et il aime pas trop les gens qui se déplacent. Alors s'ils y tiennent ou qu'ils ont pas le choix, faut qu'ils aillent s'expliquer à la maison des connétables.
Tu devrais avoir honte d'être mêlé de près ou de loin à ce genre de bêtises, dit Sam. Toi-même, t'aimais toujours mieux le dedans d'une auberge que le dehors il n'y a pas si longtemps. T'étais tout le temps fourré là-bas, que tu sois ou non de service.
Et j'y serais encore, Sam, si je pouvais. Mais sois pas trop dur, qu'est-ce que j'y peux? Tu sais que ça fait 7 ans que je me suis engagé dans les connétables avant que tout ça arrive. Ça me donnait l'occasion de sillonner le pays, de voir du monde, d'entendre les nouvelles, de savoir où était la bonne bière. Mais ce n'est plus comme avant.
Alors tu peux tout lâcher? « Arrêtez de jouer les connétables si ça a cessé d'être un boulot convenable, » dit Sam.
« On n'a pas le droit, c'est pas permis, » dit Robin.
« Si j'entends « pas permis » encore bien souvent, » dit Sam, « je vais me mettre en colère. »«
Peut pas dire que je serais fâché de voir ça, » dit Robin en baissant la voix. « Si on se mettait tous en colère d'un coup, ça pourrait donner quelque chose. Mais il y a ces hommes, Sam, les hommes du chef. Il les envoie partout. » S'il y a un de nous autres qui cherche à défendre les droits des petites gens, il l'emmène aux troubliettes. Ils ont commencé par notre boulette farineuse, le vieux maire Will Pied Blanc, et ils en ont pris bien d'autres. Ça a empiré ces derniers temps. Souvent, ils les battent maintenant.
« Alors pourquoi tu fais leur sale besogne ?»
dit Sam avec colère.
« Qui t'a envoyé à grenouiller ?»«
Personne. On reste ici dans la grande maison des connétables. On forme la première troupe du quartier Est maintenant. » Il y a des centaines de connétables en tout, et ils en veulent plus, avec toutes ces nouvelles règles. La plupart, ils sont contre leur gré, mais pas tous. Même dans le comté, il y en a qui aiment se mêler des affaires des autres et faire les importants. Pire, il y en a quelques-uns qui espionnent pour le chef et ses hommes.
Ah, c'est comme ça que vous avez entendu parler de nous, hein?
C'est juste, on n'a plus le droit de rien envoyer par ce service, mais ils utilisent l'ancienne poste rapide. Et ils gardent des courriers spéciaux à différents endroits. L'un d'eux est arrivé de Blancillon la nuit dernière avec un message secret, et un autre l'a relayé à partir d'ici. Et on a renvoyé un message cet après-midi comme quoi il fallait vous arrêter et vous emmener à Bello, pas directement aux Troubliettes.
Le chef veut vous voir au plus vite, de toute évidence.
L'envie lui passera quand Monsieur Frodo en aura fini avec lui,
dit Sam. La maison des connétables de Grenouillet était aussi horrible que celle du pont. Elle ne comptait qu'un étage, mais elle avait les mêmes fenêtres étroites et elle était faite de briques pâles et laides et mal posées. L'intérieur était humide, sans charme, et le souper fut servi sur une longue table nue qui n'avait pas été frottée depuis plusieurs semaines. La nourriture ne méritait pas de meilleur décor, et les voyageurs furent bien contents de quitter l'endroit. Il y avait environ 18 milles à faire jusqu'à Bello, et ils se mirent en route à 10 heures du matin. Ils seraient partis plus tôt si le retard n'avait si visiblement agacé le chef de troupe. Le vent d'ouest était passé au nord et devenait de plus en plus froid, mais la pluie avait cessé. Ce fut une cavalcade plutôt comique qui quitta alors le village, bien que les rares personnes venues observer l'attifage des voyageurs ne fussent pas trop sûres s'il était permis de rire. Une douzaine de connétables avaient été désignés pour escorter les prisonniers. Mais Merry les fit marcher en tête, tandis que Frodo et ses amis chevauchaient en queue. Merry, Pipin et Sam étaient donc confortablement assis, riant, chantant et bavardant, pendant que les connétables avançaient à pas lourds d'un air qui se voulait sérieux et important. Frodo se tenait néanmoins silencieux, la mine plutôt triste et songeuse. La dernière personne qu'ils passèrent était un solide petit vieux occupé à tailler une haie.
« Tiens, tiens !» fit-il gouailleur. « Qui c'est qui a arrêté qui ?»
Deux des connétables quittèrent immédiatement la file pour aller vers lui.
« Chef de troupe, » dit Merry, « ramenez tout de suite vos compères à leur rang si vous ne voulez pas que je m'occupe d'eux. »
Les deux hobbits, sèchement rappelés par leur chef, obéirent de mauvais gré.
« Allons, en route !»
ordonna Merry. Après quoi les voyageurs s'assurèrent que le train des poneys soit assez vif pour faire avancer les connétables aussi vite qu'ils le pouvaient. Le soleil reparut, et malgré la fraîcheur du vent, ils ne tardèrent pas à suer et à souffler. À la pierre des trois quartiers, ils renoncèrent. Ils avaient marché sur près de 14 000 avec une seule pause à midi. Il était à présent 3 heures. Ils avaient faim, leurs pieds les faisaient souffrir, et ils ne pouvaient tenir l'allure.
« Eh bien, venez à votre rythme, » dit Merry. « Nous continuons. »« Salut l'ami Robin, »
dit Sam.
« Je t'attends à la porte du Dragon Vert, si t'as pas oublié où c'est. Essaye de pas traîner en chemin. »« C'est un bris d'arrestation, voilà ce que c'est, »
dit le chef de troupe tout penaud.
« Je ne peux répondre de vous. »«
Nous briserons encore pas mal de choses, et vous n'aurez pas à répondre non plus, » dit Pipin. « Bonne chance à vous. »